أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais remercier le frère Sofiane que j'ai entendu à la radio, puis j'ai écouté la fin. Désolé d'avoir coupé la fin du raisonnement. Jazakallah pour cette intervention, parce que ce que j'en ai entendu était particulièrement intéressant et approprié. Mes excuses auprès de vous de cette arrivée un peu tardive, puisque j'arrive de Genève, ensuite de Bruxelles, et il y avait des bouchons de Bruxelles ici à Lille. Comme il vous a été dit, accompagnant la thématique nationale autour de ces rencontres sur le dialogue et la relation entre générations, il y a un certain nombre de choses qui sont liées à notre engagement. Encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur le fait que notre indépendance dépend beaucoup de votre soutien. Donc tout à l'heure, quand il y a cette collecte, faites vraiment en sorte, parce qu'on s'est aperçu cette année que les soutiens sont nettement moins importants que l'année dernière, ce qui fait qu'on va finir dans une situation difficile. Alors comme il a été dit, moi j'ai un travail qui me permet de vivre, mais il y a des gens qui travaillent avec moi et qui sont dans ce travail islamique, et je ne peux pas me permettre de m'en sortir moi juste ce qu'il faut, et de faire en sorte que ceux qui travaillent à organiser ma visite ici, à organiser tout cela, ne puissent pas subvenir à leurs propres besoins. Donc s'il vous plaît, faites en sorte de pouvoir soutenir, en plus de ce que vous avez fait en participant ce soir, à donner ce que vous pouvez tout à l'heure. Et puis bon, il y a ces livres. Et encore une fois, moi j'aimerais bien que dans cette communauté, au-delà des moments de rencontre autour d'une... Moi, je ne fais pas de dédicace, en fait. Moi, ce que je fais, c'est... Ce que vous lisez, c'est toujours une invocation. Si je demande à la lumière de vous accompagner ou de vous aimer, si je demande que Dieu vous aime, c'est ça qui est le plus important. Mais qui vous aime, en quoi? Dans la lecture du texte. Un livre ne sert pas par la signature qu'il y a à sa première page. Il sert par l'intelligence que vous mettrez à le comprendre, et même à en faire la critique. Vous êtes une communauté passive, vous ne lisez pas assez. Vous êtes dans un auditoire, on est dans un institut de formation, je suis désolé, vous ne lisez pas assez. Et même si vous venez de familles qui ont une histoire par rapport au travail, à la recherche de travail, qui fait que ça a été difficile pour vos parents d'être d'abord dans la lecture, c'est pas normal que pour les enfants, vous ne le soyez pas. Vous ne pouvez pas regarder vos concitoyens en leur disant que il ferait bien de savoir plus sur l'islam si vous-même vous prenez pas de temps pour développer votre intelligence et vos connaissances. Et donc, j'ai pas décidé d'écrire des livres pour que vous appréciez la couverture. Et donc, ça veut dire que ce que je vous demande dans ce travail, c'est ce que ça accompagne ces réflexions-là. C'est vraiment un vrai travail de participation critique de votre part, Charles. Le sujet qu'on a choisi, la thématique qu'on a choisie pour... Je crois qu'on peut le dire. Lui, il me tutoie, il me bouscule, et devant vous, professeur. Tu me crispes. Allez, ciao. J'en profite également pour saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent sur Pastel FM, et saluer aussi l'effort de la radio qui met cette rencontre à la disposition des auditrices et des auditeurs qui ne peuvent pas être là. Donc on avait décidé de se concentrer sur la relation entre les générations, et ce que j'aimerais faire en guise d'introduction, c'est simplement relever trois choses qui sont des réalités naturel. Ce qui est le plus difficile quand vous êtes papa ou maman, quand vous avez à éduquer vos enfants dans leur rapport entre les générations, c'est quelque chose qui a traversé l'histoire des hommes. C'est pas nouveau ce qu'on voit. Et la difficulté, elle est celle-ci. Elle est en fait que, en tant que papa et en tant que maman, quand vous êtes croyante et quand vous êtes croyant, vous allez constituer un idéal de la famille qui est lié à vos idéaux de vie. C'est-à-dire que votre mari, votre femme, quand vous décidez de vous engager, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence comme étant la moitié de la foi, voulant dire par cela que, à un moment donné, le choix de l'équilibre psychologique, physique et humain qui consiste pour un homme à vivre avec une femme et pour une femme à vivre avec un homme, ce choix-là, il se fait à la lumière de quelque chose. Il se fait à la lumière du sens. Et ce sens-là, c'est la réponse à ce qu'Allah veut de nous, en nous disant, quand vous vous engagez à deux, ce que vous allez y chercher, c'est l'équilibre. En fait, ce pourquoi nous, par exemple, en tant que musulmans, nous ne sommes pas pour le célibat, et le célibat des prêtres, c'est qu'en fait, ce qui est considéré comme naturel, c'est que nous avons été créés avec des besoins. Nous avons été créés avec des besoins de connaissance. Dès que vous avez passé un certain âge, l'âge de raison, mais déjà, on le voit chez les enfants, ils ont des besoins de comprendre. Et vous avez une période de l'enfant où l'enfant est tout le temps en train de dire pourquoi. Donc il a le besoin de comprendre. Le besoin de comprendre, c'est-à-dire que son intelligence, quand elle fonctionne naturellement, quand elle voit une cause et un effet, elle dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ?» Donc, par nature, l'esprit va produire des questions, et ces questions sont des besoins. Notre corps, naturellement, il a des besoins. Biologiquement, nous avons des besoins. Le premier, c'est celui d'avoir à se nourrir et de manger. C'est que le premier acte, dit-on, instinctif du bébé, c'est le fait de téter, et immédiatement, téter, c'est lié à un besoin, le besoin de nourriture. Et on a des besoins physiques. Et à chaque âge, on va avoir un certain nombre de besoins qui vont apparaître, et nous ne trouvons la paix qu'en répondant aux besoins. C'est-à-dire, un besoin insatisfait, c'est un manque de paix. Alors tout ça sont les choses qui sont les plus apparentes. Intellectuellement, tout le monde le sait. Je peux aller n'importe où sur la surface de la Terre, je dis intellectuellement, tu as des questions, tu cherches des réponses, tu ne seras pas satisfait si tu n'as pas certaines réponses. Et parfois, la réponse, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de réponse. Oui? C'est de dire, ça tu ne le sauras jamais. Ça tu ne le sauras jamais. Tu peux te poser la question, venir à moi et me dire, j'ai une question à te poser. Toi qui as fait l'université, quand est-ce que je vais mourir? C'est une question. Et ma réponse, c'est de dire, on peut avoir fait toutes les universités de la Terre, personne ne le sait. C'est une réponse. Le fait de dire, je ne sais pas, ce qui a été dit par les savants, ce qui a été dit d'ailleurs par une des références qui était Eschaferi ou Abu Hamed el-Ghazali, dire, je ne sais pas, c'est une réponse au savoir. Donc on a tous des besoins comme ceci, et il faut que nous traversons des âges pour trouver la paix. En islam, il y a aussi la reconnaissance de deux types de besoins qui sont encore plus profonds mais qui sont très naturels. Ce n'est pas parce qu'un besoin n'est pas visible qu'il n'est pas naturel. Il y a des besoins invisibles mais très naturels. Un des besoins qui n'est pas immédiatement visible, parce qu'on ne traduit pas de cette façon-là, on n'a pas directement, c'est pas directement biologique, mais c'est très très important psychologiquement, c'est le besoin d'amour. C'est le besoin de reconnaissance. Et le besoin d'amour, qu'est-ce que c'est ? Si tu m'aimes, tu as dit, sans le dire, mais je le sens, sans que tu le dises, c'est que j'ai de la valeur. C'est ça que ça veut dire, non ? Tu vas pas avoir quelqu'un qui dit, je t'aime, mais tu vois rien. Non ? On dit pas ça. Non mais comprenez bien, c'est pas rien ça. Quelqu'un qui vous dit dans les rues de certaines de nos cités, de nos banlieues, ou qui a l'impression qu'il n'a pas de valeur, c'est souvent lié au fait qu'il ne sait plus qui il est. que dès que tu es aimé, dès que tu te sens aimé, tu sens que tu peux avoir de la valeur. Mais encore, il faut le voir. Parce qu'il y a des gens qui sont aimés, mais qui ne le voient plus. Donc ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur parce qu'ils ne savent pas qu'on les aime. Raison pour laquelle, quand vous aimez, il faut le montrer. Raison pour laquelle le prophète, il a dit, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Parce que si vous ne le dites pas, l'amour, ce n'est pas des devinettes. Tu crois? Tu crois que je t'aime? Ça, ça va une fois, deux fois, au bout d'un moment, on se dire, tu crois? Non, je ne le crois plus. On est brouillonné, mais ça c'est tout implicite. C'est toutes des choses qui sont importantes. Et le prophète, quand il a le compagnon à côté de lui et qu'il lui dit, dis à ton frère que tu l'aimes. Efshu salam, et puis quand il dit tahabu, qu'est-ce que c'est tahabu? C'est dites, faites, il faut vous dire que vous vous aimez. Il faut vous aimer et pour ceci, il faut vous saluer dans la paix et vous reconnaître dans l'amour. Et salam. Alaykum. Salamullahi alaykum. C'est-à-dire la paix de Dieu soit sur vous. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est quoi la paix? C'est qu'en fait, vous ayez des réponses à vos besoins. Oui, la paix de Dieu soit sur toi, c'est que Dieu te réponde à tous tes besoins. Sinon, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu t'a créé avec des besoins, que Dieu réponde à tes besoins. Donc si je dis salam alaykum, c'est-à-dire, tu sais quoi? J'espère que tu auras tout l'amour dont tu as besoin. C'est ça que ça veut dire, salam alaikum. Ça ne veut pas dire salam alaikum, merci, dégage. C'est, vous savez, Karl Marx qui disait que l'un des problèmes de la réalité sociale, c'est que même quand on se dit merci, les choses qui étaient les saluts du cœur sont devenues des fonctionnalités de l'économie. Oui, l'économie de la vie. Vous savez ce que ça veut dire, l'économie de la vie? C'est-à-dire. Ça devient la façon dont vous marchandez les choses et les mots. Vous avez des mots passe-partout, à des moments donnés, vous avez dit merci trois fois dans la journée, vous n'y avez même pas pensé. C'est un mot technique, c'est un mot réactif. Ça ouvre des portes, ça ferme des portes, mais ça ne coûte pas beaucoup. Raison pour laquelle tout notre discours dans le quotidien est un discours, en fait, du rappel du sens. Oui? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est toujours un rappel du sens. Alors, à des moments donnés, on va se souvenir des mots et oublier le sens. La spiritualité, c'est remettre de sens là où il y a des mots. C'est que ça. Mets du sens là où il y a des gestes, mets du sens là où il y a des mots, mets une direction là où il n'y a que de la technique. Vous m'avez compris, même quand tu fais de la science, savoir comme ça, de la mathématique, mets du sens là où il n'y a que du savoir. Si tu oublies le sens de ton savoir, tu peux finir comme un adorateur du savoir sans sens. Faites attention à ne pas devenir des adorateurs du savoir. L'adorateur du savoir, c'est-à-dire, comme je sais, j'adore le savoir pour ce qu'il est. Non, savoir, ça doit servir à servir. Celui qui sait le plus sert le mieux. Mais celui qui ne sert que le savoir sert mal. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? C'est très important. Parce que maintenant on va y revenir dans notre vie là. À ce que ça veut dire que se marier, à ce que ça veut dire d'avoir des enfants, à ce que ça veut dire la difficulté. Tout ce que je viens de vous dire, il faut le maîtriser pour soi et l'enseigner à ses enfants. Et le mariage, au départ, c'est une quête de paix. Et ce que je vous disais, raison pour laquelle l'islam se pose à toute dimension du célibat. Que vous ayez décidé pour vous-même d'être célibataire, c'est possible en islam. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de célibat en islam, attention, il n'y a pas de célibat imposé, mais il y a des célibats que vous pouvez choisir. Le professeur Hamidullah a décidé de ne pas se marier. Il vivait à Paris dans une espèce de petite chambre où il y avait des livres partout. C'était un choix. Si lui, il fait ce choix et qu'il a le pouvoir de ce choix, et donc il a les moyens de ce choix, ça le revient. Personne n'est là pour juger. Mais ce qui est l'exception ici nous dit qu'en fait, dans la règle, vaut mieux répondre au naturel qui est le nôtre. Et le naturel qui est le nôtre, c'est qu'on a des besoins intellectuels, de savoir,
Mais le besoin intellectuel de savoir est complété par le besoin naturel d'échanger. Faites de votre femme, faites de votre mari, non pas seulement celui qui accompagne votre quête de savoir, mais celle et celui avec lequel vous échangez sur le savoir, vous communiquez sur le savoir. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Quand vous venez à une conférence comme celle-ci, vous rentrez chez vous, vous faites quoi de ce que vous savez? Vous l'avez gardé égoïstement ou vous l'échangez? Mais pas simplement pour vous, pour les gens qui vont vous entendre. Et pour les gens qui vont vous entendre, l'oreille de celui qui n'était pas là quand vous étiez là, vous permet de mieux savoir si vous avez compris ce que vous avez entendu quand vous étiez là. Aristote disait, enseigner c'est apprendre deux fois. Enseigner c'est apprendre deux fois, parce que vous prenez, vous assimilez, vous dites. Et à des moments donnés, quand vous devez retraduire, vous avez réalisé que vous n'avez pas très bien compris. Attendez, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Et c'est parfois celui qui vous écoute qui a mieux compris ce que vous lui avez traduit que vous. Vous aviez compris. Qui nous a dit ça? Le prophète à cette façon. Il dit que enseigner, transmettez de par moi, ne serait-ce qu'un hadith. Ce qui se pourrait en fait que ce hadith atteigne des oreilles qui comprendront mieux que ce que la première oreille a compris. Donc on est ici dans un ordre de le besoin de connaissance pour soi s'ajoute à un besoin de communication avec autrui. À la première cellule, c'est son mari et c'est sa femme. Deuxième des dimensions des besoins, c'est les besoins du cœur. Reconnaissez que de la même façon que votre esprit a besoin de savoir, votre cœur a besoin d'aimer. D'aimer et d'être aimé. Et que le mariage, c'est ça. On peut s'en remettre à Dieu pour le bon choix, faut s'en remettre à soi pour apprendre à aimer. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça, ça se travaille l'amour. Vous n'avez pas décidé de vos parents. Maxime Le Forestier a raison. On ne choisit pas ses parents. C'est une citation d'un chanteur islamique. La citation, pas le chanteur. On ne choisit pas ses parents. Et on ne choisit même pas l'amour que l'on a pour ses parents. Par contre, on choisit de la qualité de l'amour qu'on va offrir à ses parents. Ça, c'est un choix. Le fait d'amour, on ne le choisit pas. La qualité de cet amour, c'est nous qui la donnons. Il y a des gens qui aiment avec de la qualité, il y a des gens qui aiment avec de la superficialité. Parce que l'amour de la qualité, c'est celui qui ajoute au sentiment l'effort de répondre aux besoins de ses parents. L'effort de répondre, d'anticiper. Comment savez-vous que quelqu'un vous aime avec une certaine qualité? À un moment donné, cet homme ou cette femme qui vous aime avec une certaine qualité, il est attentif à ce que vous êtes. On m'a raconté, dans la filiation qui est la mienne, il y a des gens qui m'ont raconté qu'en fait, ils se sont aimés, se sont sentis respectés et aimés par la qualité de la mémoire de la personne qui était en face d'eux. Quelqu'un qui, des années après, vous trouve et puis se rappelle de votre prénom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une bonne mémoire. Mais ça veut dire aussi qu'il vous a vu, qu'il vous a identifié, que vous avez une place dans son cœur s'il reste votre nom dans son esprit. C'est pas vrai? C'est tellement vrai, ça. S'il y a quelque chose de moi qui reste dans ta tête, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de moi qui est dans ton cœur. Mais ça se travaille aussi. La mémoire aussi, ça se travaille. On est attentif tout à coup à ce qu'on entend. Et donc, le besoin d'amour, on sait qu'on est aimé. La qualité, c'est quand on a en face de soi quelqu'un qui est attentif aux besoins, qui peut anticiper ce qui a été dit, qui peut anticiper, qui est à l'écoute de ce que je lui dis. Quand je lui parle, il écoute, il est attentif. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on a de l'amour d'abord, puis ensuite il faut travailler. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie du prophète, quand dans la vie des compagnons, quand tout ce qui a considéré sa relation aux personnes, et même ce que vous avez comme narration, tout à l'heure, j'entendais que le frère Soufiane parlait de Sourate Luqman, de ce père qui parle à son fils, et ce qu'il lui dit, c'est de la modestie, c'est de faire le bien. Et à un moment donné, même, il lui dit par rapport à ses parents, le remerciement. Oui, remercier Dieu, remercier ses parents. Ça veut dire quoi, remercier Dieu, remercier ses parents? À partir de quand vous vous rendez compte qu'il faut dire merci? À partir du moment où vous êtes attentif à ce qu'on vous donne. Des fois, vous rentrez chez vous, vous avez votre papa, votre maman, ils sont là. C'est presque naturel, on sent même plus ce qu'ils nous donnent. Donc on oublie de les remercier. C'est quand on est attentif aux dons de leur amour qu'on commence à les remercier pour ce qu'ils nous donnent. Donc, on travaille son attention. Il ne faut pas attendre que les gens disparaissent pour savoir, pour se souvenir qu'ils ont été. Et nous sommes ingrats. Les êtres humains sont comme ça. Raison pour laquelle le souvenir de Dieu, c'est toujours de se souvenir de la mort aussi. Il faut toujours anticiper par le souvenir de Dieu le fait que c'est le seul qui ne meurt pas. Le seul qui ne meurt pas. Un des grands moments de la vie du prophète, Al-Salam, c'est sa mort. Un des grands moments de la vie du prophète, Al-Salam, c'est sa mort. Parce que ça fait partie de sa vie. Mais c'est à un moment donné, quelqu'un, par exemple comme Omar, qui s'était tellement habitué à sa présence qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il disparaisse. Et quelqu'un qui avait déjà anticipé le fait qu'il pourrait disparaître, parce que quelques jours auparavant, le prophète Rachid avait envoyé des signes, je vais m'en aller. Donc, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est qu'au tout début, cette reconnaissance des besoins dans le mariage entre un homme et une femme, ça va être déterminant. De savoir les besoins intellectuels, les besoins de cœur, les besoins physiques. Les besoins physiques. On a des besoins de tendresse. Vous avez une peau qui, par nature, a besoin de main. Vous pouvez remplir ça comme vous voulez, vous avez besoin, c'est comme ça. Regardez l'enfant. Il y a des enfants, ils cessent de pleurer au contact tactile. La main. Vous savez qu'il y a des psychologues et des médecins qui vous disent le premier contact qui consiste quand l'enfant est sorti du ventre de la maman à le mettre sur le ventre de la maman, c'est tellement important. Rien n'est dit, tout est dit. C'est la chaleur, le tactile. Et ça a du sens, ça. Ça a du sens. Et nous, on est tous comme ça, on a tous besoin de ça. Il y a une chose, vous êtes nés avec, vous allez mourir avec. L'amour et la nécessité de la caresse et du tactile. Entre un homme et une femme. Mais il faut le reconnaître, ça. Souvenez que ce bédouin qui voit le prophète en son salam qui est en train d'embrasser son enfant lui dit moi j'en ai vite, j'en ai même pas embrassé un. Et quel mot il utilise le prophète? Il utilise le mot de la racine rahma, rahma, rahma. Dans rahma il y a quoi? Il y a le lien de parenté, il y a la miséricorde, il y a la bonté, il y a le pardon. Dans le même mot il y a ce qui lie les générations. Ce qui lie au Rahman, à Dieu, ce qui est le pardon et ce qui est la douceur. Il y a tout ça dans le même mot. Et lui, il dit, c'est ça. Et il le dit à la suite de quoi? Au fait qu'il embrasse ses enfants. Il embrasse ses enfants. Et donc, en fait, ce qu'il fait avec son enfant, parce qu'il répond à un besoin de l'enfant, il le fait de ce point de vue-là, dans le cadre de la famille. Aïcha, radiallahu anha, elle nous a rapporté des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois du ramadan, quand il jeûne, où il est dans un rapport totalement de tendresse et d'affection. Il n'y a aucun problème avec ça. Le fait de ne pas manger, le fait de ne pas boire, le fait de protéger son cœur de pensées qui sont mauvaises, ça va passer par quoi? Vous pensez que moins de tendresse, c'est moins de sexualité? Non. Pendant le mois du jeûne, la protection par la tendresse, c'est une bonne protection contre les tentations sexuelles quand elles sont dans le cadre de la quand vous protégez le besoin de tendresse et d'affection, vous vous protégez de pensées qui vont aller loin. Et ça, le prophète, il avait ceci avec sa femme. Elle nous le dit. Et ça nous est transmis jusqu'en 2009. Pourquoi ? Pour nous dire, c'est cette relation entre un homme et une femme. Elle est importante, pourquoi ? Ça sert à quoi de parler de dialogue intergénérationnel si on n'a pas compris que le dialogue intergénérationnel, c'est le miroir du dialogue au niveau de notre même génération ? Dis-moi comment tu parles, dis-moi ce que tu échanges avec ton épouse ou ton époux, et je saurai ce que tu peux échanger avec tes enfants. Ce sont des choses importantes. Vous pensez, ça fait peut-être 10 minutes que je ne suis pas dans le sujet. Pourtant, je suis déjà rentré. Je suis entré dans le cœur du sujet. C'est le dialogue sans mots. C'est le dialogue du cœur, c'est le dialogue de l'amour. Ça fait 10 minutes que je vous parle de la chose la plus essentielle, c'est-à-dire ce vrai dialogue, qui fait qu'à un moment donné, on ne dit pas, on n'a pas besoin de mots, mais on sait nos besoins. On sait le besoin de l'autre. Et le besoin de l'autre, il est à l'intérieur du couple. On sait qu'on a besoin d'échanges intellectuels. Méfiez-vous des couples qui s'appauvrissent intellectuellement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Méfiez-vous. Méfiez-vous dans vos familles de ne pas établir un dialogue de stimulation intellectuelle. Si toi t'évolues, fais en sorte que l'autre évolue. Pose des questions. Fais que ce que tu lis, ça pousse à lire. Stimule l'intelligence de l'autre. Parce qu'à un moment donné, on est des êtres humains. Si on a un qui évolue dans l'intelligence et l'autre qui évolue devant la télévision... Oui, parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Ils passent leur soirée devant la télévision. Alors quand on est les deux devant la télévision, on a l'impression d'être un couple uni uniquement parce qu'on regarde dans la même direction. C'est pas fameux. Mais quand on vit dans la même direction, on dialogue, on se stimule l'un l'autre, on se stimule intellectuellement, on se stimule aussi affectivement. On est le miroir qui permet. Mais ça, c'est quoi la moitié de la foi, c'est ça ? La moitié de la religion, c'est ça ? C'est que si t'aimes la moitié, c'est que tu réponds, tu complètes ce dont j'ai besoin, mais tu le complètes dans un rapport de questionnement intellectuellement, c'est une chose. Ensuite, affectivement, c'en est une autre. Et cette évolution-là, elle est importante. Elle est importante parce que c'est aussi cela qu'il faut comprendre quand on sera avec ses enfants. Il faut pouvoir traduire ça à ses enfants. Et il faut traduire ça avec ses enfants dans les deux sens. Autant il faut être le miroir du développement intellectuel de son mari ou de sa femme, autant il faut être le chemin du développement intellectuel de ses enfants. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est-à-dire accompagner le questionnement de ses enfants, être attentif à leur questionnement. Et la première des choses que les enfants ont besoin, le premier dialogue, c'est un dialogue tactile. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique noire, mais même dans les sociétés d'origine, de vos pays d'origine, le pays d'origine de vos parents, le rapport du toucher, ce dialogue du toucher, ne vous en éloignez jamais. Ne confondez jamais la morale islamique avec la déperdition de l'échange affectif et de la tendresse. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur-là. S'il y a un espace dans lequel il faut absolument que vous puissiez dire les mots de l'amour, que vous montriez les gestes de l'amour, que vous ayez de la tendresse, de l'affection, que ça vous protège, c'est entre vous à la maison. Certains d'entre vous, ils ne prennent pas leur maman dans leurs bras, ils ne les embrassent pas, ni leur papa. Vous avez 1000 fois tort. 1000 fois tort. Réhabituez-vous à prendre vos papas, à prendre votre maman. Il y a des jeunes filles, alors encore une fois, je sais qu'il y a parfois des situations qui ont été difficiles pour dans le rapport de génération, il y a des fractures. On nous parle aujourd'hui de situations dans des familles musulmanes où il y a de l'inceste, où il y a des papas qui ont abusé des filles, où il y a de ça. Ça, il faut le dire, il faut l'approcher. Il y a de tels déséquilibres aujourd'hui dans certaines des familles musulmanes qu'il y a des hommes qui sont dans un... Il y a deux victimes. Il y a les premières victimes qui sont les enfants, les filles qui peuvent être abusées par les papas. Et puis il y a les papas. Il y a les hommes. Je dirais, ça veut dire quoi? Un homme qui abuse sa fille. Ça veut dire que c'est intolérable et qu'il faut protéger la fille. Mais il faut soigner le papa. Soigner le papa au sens qu'il faut vraiment l'accompagner. Nous, on n'est pas des tribunaux de la condamnation définitive. On est des médecins. On protège la victime et on accompagne le malade. Et il se trouve que parfois dans la famille, la victime est le malade. On n'a pas de condamnation définitive. Parce qu'on condamne les gestes, on ne condamne pas les êtres, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, il faut que cet accompagnement se fasse. Donc, je sais qu'il y a des situations comme celle-ci. Mais ces situations comme celle-ci, d'abord, il faut en parler. Quand vous le savez, il faut faire quelque chose. Mais il y a la norme. Et la norme, c'est vraiment qu'on puisse exprimer affectivement les mots de l'amour, les gestes de l'amour. On se souvient du prophète, Al-Sotussalam. Comment il est avec ses filles, comment il est avec ses enfants. C'est-à-dire, à un moment donné, même, on connaît cette histoire de Ja'far al-Afar, quand il est venu annoncer sa mort. Et puis que la femme, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'émotion, elle est très, très, très grande. Il n'y en a aucun d'entre vous qui dira haram. Parce que c'est l'histoire du prophète, Hassan. Mais la femme, elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait pas admettre, comprendre à un moment donné, dans l'instant que son mari était mort. Et puis elle a couru, elle s'est lancée sur le prophète, Hassan. Il n'a pas dit Arouzoubillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la mort, la norme dans l'exception fait comprendre le dépassement émotif. À un moment donné, j'ai compris, ton intention n'est pas haram. C'est ton cœur qui déborde. Donc je vais apaiser ton corps, ton cœur, pour que ça descende et qu'on revienne à la norme doucement. Des fois, il faut faire ça. Avec de l'amour, on fait venir la norme doucement. Il y a des normes, il faut les faire venir doucement. C'est pas haram. Alhamdulillah, touche-moi pas. Ça commence dans la famille. Mais pourquoi je vous dis ça? Vous vivez ici, vous êtes au nord de la France. Vous vivez dans une société qui est une société globalisée. C'est partout pareil aujourd'hui. Vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Égypte, vous allez en Asie, vous allez en Afrique, vous venez ici. On a de vrais problèmes dans ce monde globalisé. Là, on est en train de se dire, le dialogue intergénérationnel, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment je transmets le sens des choses. Non, comment je transmets l'amour d'abord, comment je me protège affectivement. Le problème des familles musulmanes est psychologique, il est affectif, c'est de la tendresse qui manque. Nous sommes sinistrés affectivement. Après, vous pouvez venir avec toutes les constructions intellectuelles, ça ne marchera pas. Tu n'es pas en paix avec ta tête si tu ne te donnes pas le temps d'être en paix avec le dialogue sans les mots. C'est-à-dire ce dialogue. Regardez ça, c'est dans le Coran. Porte sur tes parents. Enveloppe-les de l'aile de la tendresse. Minar Rahma, regardez le même mot de nouveau. La miséricorde, la générosité, la bonté et le lien de parenté qui est tout dans la racine du mot et qui nous renvoie à Ar-Rahman. De nouveau, chaque fois que dans le Coran vous avez cette relation aux parents, il y a la notion de Rahman. C'est le Rahim qui est directement lié au trône du divin, selon le hadith du prophète. Et en plus de ceci, chaque fois qu'il y a un acte de bonté, de ce point de vue-là, il est lié à ce mot-là. Donc nous, dans le dialogue intergénérationnel, avant tout cela, dans la situation dans laquelle nous sommes, avant d'en arriver à ce qu'on doit faire intellectuellement, comment est-ce qu'on a... Ça, c'est le premier accompagnement. Et vous savez quoi? Il est à la portée de tous. Il est à la portée de tous. Simplement, il faut faire un effort, il faut l'admettre. Il faut le regarder pour ce qu'il est.
Vous savez pourquoi beaucoup d'entre vous sont protégés islamiquement? Pourquoi d'entre vous, beaucoup des jeunes là maintenant, pourquoi partout où je le vis en Europe, les salles sont pleines et c'est la majorité de jeunes? Regardez-vous, la majorité d'entre vous, vous êtes jeunes et je suis maintenant parmi les plus vieux. La majorité, on est, et puis les autres sont, on est, c'est majoritairement, pourquoi vous revenez? Pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi tout à coup dans votre cœur il y a un appel qui se dit mais il y a du sens quelque part? Qu'est-ce qui est passé en vous par le cœur qui n'était pas passé par l'intelligence structurée d'un enseignement? Ça, vous ne savez pas. Parce que parfois, vous n'avez même pas su que vos parents vous ont donné ce que vous avez reçu, mais que vous ne saviez pas que vous aviez reçu. Vos parents vous ont donné avec de l'amour, dans l'implicite de leur présence, des choses que vous avez reçues, vous n'êtes même pas rendu compte. Vous n'êtes même pas rendu compte. Alors évidemment, la majorité n'avait pas fait d'études, ils n'avaient pas. Ils ont sauvé leur famille, ils sont venus chercher du travail. Mais vous avez des mamans, parfois elles ne savaient ni lire l'arabe, ni lire le français, mais elles savaient aimer. Des moments donnés, vous ne l'avez même pas entendu, et à des moments donnés, c'est juste des signes comme ceci, c'est Allah, il n'aime pas ça. Wallahi, non. C'est comme ça. Et ça, ça vous façonne dans la tête. Ça rentre, vous ne savez même pas que ça rentre. C'est pas du savoir, c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour qui protège. Et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, sur votre route, il vous rappelle. Et venez. Donc vous avez reçu des choses, vous n'êtes même pas rendu compte que vous les avez reçues. Et ça, ça vient de quoi? Ça vient que Allah a protégé des familles avec peu de savoir et beaucoup d'amour. Et Allah a perdu des familles avec beaucoup de savoir, de l'arrogance et peu d'amour. Parce que c'est ça qui est important, c'est ce qu'on va... Et moi, ce que j'aimerais, c'est que surtout une chose, beaucoup d'entre vous ont plus aujourd'hui d'accès à la connaissance de leurs parents. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont plus de savoir. Vous pouvez lire en français, beaucoup d'entre vous savent plus sur l'islam que leurs parents. Ils savent plus sur la société française que leurs parents. Ils sont plus diplômés. Mais il manque singulièrement d'amour. Ils se sont, de ce point de vue-là, modernisés au sens où ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas beaucoup de cœur. Il y a certaines d'entre vous, et certains d'entre vous, vous verrez dans vos parents, ils ont fait des sacrifices, vous n'êtes même pas capable de faire le dixième. Ils ont fait des sacrifices de vie, ils ont quitté leur pays, ils vous donnent. Moi je vois des mamans qui ont tout donné pour leurs enfants, ils se sont sacrifiés, même leur propre équilibre affectif à des moments pour les enfants, et tu regardes les enfants, une délégation d'égoïstes. Méfiez-vous de ceux qui ont reçu des richesses d'amour et qui deviennent des égoïstes d'ego, de leur propre ego. C'est moi. Moi je sais plus qu'eux. Quand vous voyez ce que certains disent quand ils réussissent socialement, sur la façon dont ils regardent d'où ils viennent, c'est vraiment attristant. Vraiment attristant. Aucune reconnaissance. Parce qu'ils ne reconnaissent que ce qu'ils voient, le clinquant. Montre-moi ton porte-monnaie, montre-moi tes diplômes, montre-moi tes titres. Et quelqu'un qui a beaucoup de titres et qui n'a pas d'amour, franchement. Oui. Les titres, ça ne fait pas du cœur. Un titre, ça fait de l'ascension sociale, mais tu peux être très haut socialement et très triste personnellement. Mal à l'aise, pas bien. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous compreniez dans ce que j'appelle le dialogue intergénérationnel, là, c'est ça qui est important d'abord. Et vous attendiez pas à ça, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Réconciliez-vous avec les dons généreux de vos parents. Réconciliez-vous avec les gestes de l'amour. Réconciliez-vous avec les mots de l'amour et transmettez-les. C'est pas du savoir, mais quelle force. Quelle force. Et souvenez-vous toujours que le plus grand message que le prophète a apporté avec le Coran, c'est l'amour que les gens lui portaient, à lui. Il est venu porter un livre, le livre était sens et lui il était amour. Le livre est sens et lui il est amour. Le prophète Assalam l'aime. C'est de l'amour. C'est pas un code de conduite halal haram. C'est pas tu peux, tu peux pas. On l'aime. Raison pour laquelle la vie du prophète sallam, elle ne s'arrête pas au hadith du prophète sallam. Le hadith, c'est ce qu'il a dit, fait ou approuvé. Mais c'est pour ça qu'on va à la sira du prophète sallam, où on voit comment il était, comment il est attentif à la réaction de ses compagnons les plus près, et comment il est attentif à ses compagnons qui viennent juste une fois. Il est attentif. Il sait que les gens, ils ont besoin de le suivre, ils l'aiment, et ils ont besoin qu'il les aime. Ils ont besoin qu'il les aime, ils ont besoin qu'il les voit comme un... Mais c'est ça, pourquoi Allah Santana, un des noms d'Allah Santana qui vient dans le Coran, c'est Rab, l'éducateur. Les meilleurs éducateurs, ce sont toujours ceux qui ont réussi à mêler le savoir et l'amour. L'amour de ce qu'ils enseignent et l'amour de la personne, que vous les aimez dans ce qu'ils enseignent. Le meilleur enseignant, c'est celui-ci. Un enseignant que vous détestez aura du mal à vous faire ce qu'il, aimer ce qu'il enseigne. C'est difficile de détester l'enseignant et d'aimer la matière telle qu'il l'enseigne lui. Après, vous pouvez effectivement aimer la matière, mais il y a toujours ça coince quelque part. Donc l'enseignement, c'est ça. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, 15e siècle, 21e siècle, le vrai début, l'essence de ce qui est la relation intergénérationnelle, elle passe par ça. Et moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est acquérir, posséder tout ce qui n'a pas pu vous être donné par l'histoire de vos parents en matière de savoir là où vous êtes. Mais ne perdez pas ce qui vous a été donné de façon affectueuse, tendre, ce don-là. Et puis transformez-le par le savoir. Pourquoi ? La communication, à la maison, l'expression d'amour, les gestes. N'oubliez pas que votre prophète, c'est votre modèle, il a besoin de caresses quand il jeûne. Et vous allez me dire en 2009 que... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Des sourires. Mais des sourires, des gestes, des petits détails. Un sourire, c'est une caresse. Un sourire, c'est viens. Je t'ai vu. Il y a de l'amour. C'est ça. Vous savez ce que disent les philosophes? Personne disait, quand tu ris. Baudelaire faisait rappeler quelque chose qui est vrai dans la tradition chrétienne et que nous on sait également, c'est que le prophète Isa, Jésus, alayhi salam, ne riait pas, il souriait. Et Bergson, quand il écrit un livre, si vous avez du temps, lisez le livre Le Rire de Bergson. Il dit dans Le Rire, à un moment donné, il y a une distance entre vous et la personne dont vous riez, il n'y a plus d'émotion, il n'y a que du mécanique. Oui. Parce que ça peut être violent de rire. Et il prend un exemple. Il dit, vous voyez quelqu'un, il court après le bus, il arrive vers le bus, il rate la marche et tombe. Vous voyez, hein? Et il dit, ce moment-là, il n'est pas du tout affectueux. Il n'y a pas d'affectueux, il y a juste la chute mécanique. Ça me fait rire. Et il dit, le sourire, c'est pas ça du tout. Le sourire, il y a une empathie affectueuse. Vous souriez, c'est autre chose qui vous est donné. Le rire, et c'est ce qu'il dit. Il dit, Jésus ne riait pas. Le prophète, on le sait aussi, d'abord, il n'y avait jamais ses dents, et il souriait. Il souriait. Et c'est quoi le sourire? C'est un accueil. Sourire peut accueillir, rire peut éloigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire, mais pas trop fort. Si on a certains d'entre vous, quand ils rient, on se demande... Tu n'as jamais remarqué qu'il y en a certains quand ils rient, tu dis, mais... Il y a un problème. Donc, non mais c'est des petits détails. C'est des petits détails, mais ça montre tout. Je vais vous dire une chose, c'est vrai. Je peux vous dire... Mais sortez, la semaine qui vient, vous vous souvenez de ce qu'on est en train de dire. Dis, j'étais à une conférence là l'autre soir, vous sortez à des moments donnés, vous regardez comment les gens rient. Et je peux vous le dire, montre-moi comment tu ris, je te dirai qui tu es. Il y en a dans le rire, alors, non, je ne vais pas insister, mais il s'épanche, en a qui prennent toute la place, qui s'oublient.
Il y en a, au moment où il rit, tu sens qu'il s'est oublié.
Vous suivez ?
Bon, bref, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se réconcilier avec ça. S'il vous plaît, vous êtes la deuxième, la troisième ou la quatrième génération. Vous êtes français. Vous êtes français de confession musulmane. Faites en sorte que ce qui vous a été donné par les générations, vous vous réconciliez avec toute cette richesse-là. Et cette richesse-là, c'est du non-dit, mais c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de tendresse. Et puis vous, maintenant, vous l'améliorez. Vous l'améliorez en sachant que le prophète, il disait de faire ça. Il disait de le dire à son mari, il disait de le dire à sa femme, il disait de le dire à ses enfants. Il prenait sa fille, il avait une complicité avec sa fille extraordinaire. Oui, la complicité avec ses enfants extraordinaire. Je te dis rien, mais je t'observe. Oui, il y a des moments donnés, des petites choses qui sont importantes. Tout ça, ça demande de l'effort. Pensez pas que ça vient naturellement. Pensez pas que ça vient naturellement et vous allez vous tromper. Et on va vous le reprocher. Il y en a parmi vous qui vont vers leurs enfants et qui leur disent « Pardon, je me suis trompé. J'ai pas vu. » Vous savez ce que ça peut vouloir dire à des moments donnés pour l'enfant. Quand il vient vers lui, il dit « Je te prie de m'excuser. Pardon. J'ai pas vu. Pardon, j'ai pas été attentif. Pardon, je suis pas assez là. » Ça, c'est une des choses qui sont tellement importantes. Ça change tout. La reconnaissance de vos faiblesses, c'est votre force. Oui ? La reconnaissance de vos faiblesses, c'est une force, et là vous allez pouvoir. Alors dans la famille, c'est important. Il y en a certains d'entre vous ici, il faut communiquer, il faut être dans cette communication-là. La communication, c'est la force de ceux qui ont la foi. Pourquoi vous pensez qu'on a autant de hadiths sur le prophète ? Ça veut dire qu'il a beaucoup communiqué, il a beaucoup parlé, il a beaucoup montré, il a beaucoup fait. En combien de temps ? 23 ans ? Mais si on prend 23 ans de ce que vous avez dit, vous pensez qu'il y en a autant de volume que ce qu'on a sur le prophète. Donc il est dans la communication intime. Ça, c'est la première des choses. Laissez-moi maintenant venir dans la deuxième partie qui mènera à ma conclusion. J'ai eu le temps. J'ai fait combien de temps là? Bon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a une chose qui est importante dans ce partage. Maintenant, il y a quatre directions sur lesquelles il faut qu'on insiste dans ce qui est justement la relation entre les générations. La première des dimensions, c'est que quand on est papa et quand on est maman, il y a une chose avec laquelle il va falloir travailler beaucoup. Et c'est une chose aujourd'hui sur laquelle il faut vraiment que vous réfléchissiez. C'est profond et c'est difficile. C'est un domaine dans lequel, par la force des choses, dans ma vie personnelle, je suis impliqué, parce que en étant prof, en étant papa, en vivant dans la communauté, il y a un concept qui est central dans la relation entre les générations. C'est le concept d'autorité. L'autorité. Posez-vous la question. Il n'y en a pas un dans cette salle, pas une, qui n'est pas une sorte d'autorité. Et si vous pensez que vous n'avez aucune autorité, c'est un problème. Vous avez toujours une autorité quelque part. Et il faut toujours, là aussi c'est un besoin, on a besoin d'être un sujet. La première des personnes sur laquelle on aimerait avoir autorité, c'est sur nous-mêmes. C'est-à-dire on se maîtrise. J'essaie d'avoir une autorité sur moi-même. Mais ensuite, dans la maison, on a une autorité sur ce qu'on a à faire, sur un plus petit frère. On a même une autorité aussi par rapport à ses enfants, bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est que vous reveniez au prophète à ce seul et vous compreniez comment il a géré son autorité et venait d'où son autorité. Est-ce que le prophète à ce seul allait vers les compagnons et leur disait « Je suis le chef » ? Non. La première des choses, c'est la reconnaissance d'un statut et c'est un rôle. Le prophète à ce seul était reconnu dans son rôle de « El-Murta », c'est-à-dire il était choisi. Et il avait ce rôle-là. Et quand on est dans une famille, il faut qu'on soit clair sur nos rôles. C'est pas on va la jouer copain-copain. T'es pas mon copain. Et un papa, c'est pas un copain. Je peux devenir un ami, je peux t'accompagner, mais je ne suis pas ton copain. Quand je commençais mes enseignements, quand j'étais au secondaire, en Suisse, c'est que j'enseignais à des jeunes, je leur dis, écoutez-moi bien. Il y aura de la complicité, il y aura de l'affection, je ne suis pas votre ami. Entre vous et moi, il y a de l'autorité. Et cette autorité-là, vous allez la respecter. Parce que le meilleur amour, c'est celui qui connaît les règles. On n'aime pas n'importe comment. Donc ça, c'est important aussi, dans votre famille, de bien vous poser la question de savoir les règles. Alors après, le rôle du papa, le rôle de la maman, ça aussi, dans leur relation, elle est extraordinairement importante. Et le premier problème qu'on a dans nos familles aujourd'hui, c'est que souvent le rôle du père, c'est l'autorité qui dit non, et le rôle de la mère, c'est l'autorité qui gère dans le oui relatif. Et ça, ça ne va pas du tout. Le plus grand problème dans les générations aujourd'hui, c'est les problèmes qu'on a dans le rôle des papas. Dans le rôle des papas. On a un vrai problème aujourd'hui. Parce que c'est fini la société d'hier où le papa qui travaille, la maman, c'est fini ça. Maintenant, on est dans des sociétés qui sont... ces règles-là, il faut qu'on ajoute de l'effort, il faut qu'on fasse... On a aujourd'hui besoin de papas qui sont beaucoup plus impliqués sur la question du rapport à la gestion de la famille, du dialogue à l'intérieur, de la présence vis-à-vis des enfants. On ne peut plus faire sans ça. Donc, quand une société change, les rôles évoluent. Vous ne pouvez pas arriver et dire, écoute, moi je suis ton père. Attendez, mais ça veut dire quoi quand vous arrivez, je suis ton père, tu t'aimes. T'écoutes. D'accord, ça va, il va t'écouter. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est que ce n'est pas comme ça que l'autorité fonctionne. L'autorité, elle est dans, par exemple, l'autorité scolaire, il y a un rapport au savoir. Mais ce n'est pas parce que j'ai une autorité que tu n'as pas de liberté, que tu ne peux pas questionner. Mais ça, on a dans le Coran, dans le Surat-Luqman. S'il te demande de faire en sorte que tu suives quelque chose dont tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Coran? Qu'un verset qui vous dit, si tes parents te disent quelque chose dont tu n'as pas connaissance et qui serait d'associer quelqu'un à Dieu ou de faire quelque chose qui soit contre le juste, tu ne leur obéis pas. Ça veut dire que sur l'autorité de tes parents qu'ils ont sur toi, ils sont eux soumis à une autorité sur laquelle nous tous nous sommes soumis. Donc l'autorité suprême de Dieu, c'est la liberté de ceux qui sont sous toute autorité. Elle est libère du carcan de l'autorité. Même de leurs parents. Même de leurs parents. C'est-à-dire, l'autorité suprême de Dieu ne nous soumet pas tous à un silence. Elle nous libère de toutes les autorités humaines par un rapport critique à ce que Dieu, Allah SWT, attend de nous. Vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? C'est complètement différent de ce qu'on fait. La ta'at Ali Mahlouk qui a fait marcer, il y a tel khalat. Quand le prophète dit ça, pas d'obéissance à une créature en désobéissance du Créateur, ça veut dire réveiller vos esprits, questionner les autorités dans la maison. Mais questionner les autorités dans la maison, ça va quand tu questionnes de bas en haut, mais ça va quand tu l'imposes de haut en bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment vous allez gérer l'autorité familiale? Comment vous gérez ça? Comment vous êtes avec vos enfants? Est-ce que vous donnez d'autorité à vos enfants le droit de questionner votre autorité? Est-ce que vous leur donnez ça? Parce que autant il faut qu'ils sentent que vous les aimez, autant il faut qu'ils vous aiment, autant ils doivent pouvoir parler, ils doivent pouvoir s'exprimer, ils doivent donner le besoin du cœur, ils doivent pouvoir exprimer le besoin de l'intelligence. Et plus je t'offre la possibilité de poser des questions, plus tu poses des questions à l'intérieur, plus tu es fort à l'extérieur. Le silence dans les maisons, c'est la faiblesse dans la rue. La question à la maison, la discussion à la maison, c'est la force dehors. Et quand certains viennent vers moi et ils me disent, tu parles français, tu parles d'arabe. Et vous croyez que j'ai appris ça où? Uniquement à l'école? Non, je viens d'une famille, il y avait des livres partout sur les murs et on discutait. Moi j'ai assisté, quand j'étais tout petit, à des discussions entre mes frères avec mon père. Je comprenais plus rien. Mais ce que je comprenais, c'est que l'autorité était négociée. Et ils étaient tous en train de discuter, ils respectaient l'autorité, mais ils la questionnaient. Ils questionnaient même une histoire, ils questionnaient. Attendez, moi j'ai vu et entendu de mes propres oreilles quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour Dieu entendre son fils lui dire « Le Dieu dont tu me parles là, je le refuse. » Et il lui a pas envoyé une gifle. Très bien. Discute. Moi je crois que ce que je vois. Ah ouais. Et il me frappe la main. Il dit « Hé !» Il a dit « Je vois rien. » Ouais, c'était ça, j'assistais à ça. C'est ça qu'on me rapportait. Mais ça, c'est quoi? C'est du débat. C'est de là. C'est le doute en question qui fera la certitude dans la foi. Mais un silence sans question pour faire semblant d'avoir la foi, ça, c'est la faiblesse. Vaut mieux passer. Donc, posez-vous la question chez vous, comment vous faites? Alors, ce qui vous a été donné naturellement, maintenant, il faut comprendre qu'il faut le construire, il faut des efforts. Donc à la maison, l'autorité comme élément central de la transmission. Et c'est là où vous sentez à un moment donné qu'il faut, de ce point de vue, revenir au prophète. On n'a pas beaucoup et pas énormément d'éléments sur ses relations d'autorité dans sa propre famille. Même si on sait que c'était beaucoup posé sur la, c'était beaucoup sur la complicité, beaucoup sur le dialogue et l'amour, mais on a énormément d'exemples où des compagnons questionnent l'autorité. Ils font la différence de sa relation avec Dieu et de ses choix personnels. Et Allah SWT, pourquoi croyez-vous que dans le Coran, Allah SWT nous met en évidence les défaillances de l'homme? Pas les défaillances prophétiques. Le prophète n'est pas défaillant, mais l'homme l'est. L'homme l'est. Avec la meilleure des intentions, le Coran nous rapporte à Abasa wa Tawalla. Pourquoi vous pensez que le Coran, quand il nous parle du prophète Asalam, il nous met en évidence que cet homme qui a l'autorité suprême sur vous tous est défaillant par rapport à l'autorité suprême de celui qu'il a sur lui et sur vous tous? Pourquoi? Pour nous dire, attention, il n'y a pas d'autorité absolue parmi les hommes. Tout le monde est défaillant. Et il faut discuter. Pourquoi pensez-vous que vous avez la sourate et le rapport dans le Coran de Ghazwat Uhud, où le prophète Hassan pense, lui, d'autorité, avec son expérience, qu'il ne faut pas sortir, et que les plus jeunes pensent qu'il faut sortir. Et qu'à la majorité, c'est les plus jeunes qui ont questionné l'autorité du sage, qui pensaient qu'il ne fallait pas sortir. Eux, ils veulent Ghazwat Bad Biz. On sort, on les bat et on gagne. Lui, il pense à une stratégie, il dit non. Il fait le vote et il perd. L'autorité du dirigeant questionnée, l'autorité du dirigeant qui sait est questionnée par l'ambition des jeunes qui veulent. Et qui savent moins. Et il perd. Et pourtant, il va les suivre. Il va soumettre son autorité à la règle qu'il a imposée, qui est la règle de la négociation de l'autorité. Et pourtant, le Coran vient dire, là, et le confirmer qu'il faut qu'il continue là. C'est-à-dire, tu dois consulter les gens. Par une mine, Rahma, de nouveau. Regardez, Rahma, l'autorité dans la Rahma. C'est Allah SWT qui t'a mis ça. Tu as été doux à leur égard. Donc, la douceur, même dans l'autorité, souvenez-vous de ça, quand le prophète, attendez, vous vous souvenez? Pharaon. Allah SWT, il envoie Moussa, alayhi salam, il envoie Haroun, il les envoie à eux. Ils vont envoyer vers l'homme qui a l'autorité suprême.
وقول له قولا لينا لنت له لينا parole douce. La douceur dans le rapport à l'autorité, même devant le tyran. Je vais être doux en face de ton arrogance, mais ma douceur c'est ma force, ton arrogance c'est ta faiblesse. Ça, il faut que dans nos maisons, ce soit présent. La négociation de l'autorité, le débat autour de l'autorité. Pas une autorité qui impose, mais une autorité qui écoute, une autorité qui propose. Une autorité même qui va accepter d'être mise en minorité. Ça vous est arrivé des fois de poser votre famille autour de vous, autour de la table, dire on va discuter, on va prendre une décision ensemble. Puis que ça peut être la décision des autres. Non, souvent chez nous, c'est Baba qui décide. Ou maman a décidé. Parce qu'il y a des mamans, elles sont très fortes. Elles ont décidé avant le papa, mais laissent entendre que c'est le papa qui décide ce qu'elles avaient décidé avant de décider. Ah ben oui, ça c'est la majeure. C'est pour ça que les hommes appellent le ministère de l'Intérieur. Bref, c'est vrai. On est toujours comme ça. Il y a des gens qui sont très forts en matière de gestion de l'autorité. Et puis des enfants. Mais j'ai vu des enfants, ils sont vraiment chapeaux, quoi. Ils font croire à leurs parents que la décision qu'ils ont prise contre eux. Enfin bref, vous connaissez ces stratégies. Hein, faire dire à vos parents ce que vous aviez envie qu'ils disent et faire l'impression que non, vous n'y avez même pas pensé. Bref, tout ça, c'est la gestion d'autorité, mais ça, c'est une chose très importante. Et ça, souvenez-vous du prophète Hassan, comment il était avec les compagnons. Souvenez-vous comment il était dans la gestion. Razouet Uhud est importante, pas politiquement seulement. On n'est pas en train de parler de politique, on est en train de parler de gestion de l'autorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un comme ceci qui avait... Mais vous savez qu'eux, ils étaient tristes. Après, les compagnons sont allés vers le prophète, ils ont dit, on a peut-être eu tort. Mais parce qu'ils ont vu que le prophète a suivi la décision. Ils ont eu peur, ils ont eu leur cœur. Leur cœur a eu peur d'avoir été trop loin dans la question de l'autorité. Et il dit, non, il appartient pas à un prophète une fois que la décision a pris, c'est pris. D'accord. Donc ici... Vous avez remarqué l'autorité, mais regardez, deux fois je viens de vous montrer dans le Coran qu'à côté de la question de l'autorité, il y a la question de la douceur. Mais ne confondez pas autorité avec dureté. Le prophète Hassan avait une autorité naturelle de douceur, très doux, mais en même temps avec une force comme ça. Ça, c'est ce qui doit aussi se négocier à la maison, c'est une dimension importante. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin.